Bonjour, bienvenue dans un monde où on chuchote des bruits de couloirs et des secrets d'État. Un monde où, dans un silence feutré, le parquet craque sous vos pieds. Le parquet, les moulures aussi, oui, parce qu'à force, ce monde-là est un petit peu décati. Ça ne se voit pas trop, non pas du premier coup d'œil, tant le lustre, tant les lustres d'abord vous émerveillent, ils vous font sentir tout petit. C'est beau, normal, c'est un palais. Ce monde-là, vous y êtes peut-être entré déjà, un jour par an. Vous y avez accès, ces portes ouvertes, alors on ne se prive pas, parce que le reste de l'année, pas un jour ne se passe sans qu'on en entende parler, qu'on commente, qu'on scrute, qu'on cherche à savoir ce qu'il peut bien s'y passer. Et il s'en passe des choses, oui, et des choses importantes, des choses sanglantes aussi, parfois. Aïe, le pouvoir, ça fait saigner. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le gagner? Prêt à tout, surtout pour le garder. Derrière les lourdes tentures du palais, on s'épie, on se regarde, on complote peut-être aussi. Allez savoir, il y a du secret ici, vous savez, des recoins sombres, des méandres. Alors ce matin, bienvenue dans le labyrinthe du pouvoir, bienvenue dans le dédale de l'Élysée.
France Inter. Dans quel monde on vit ? Julia Foyce.
Dans quel monde on vit ? C'est le monde d'aujourd'hui raconté par ceux qui le vivent, l'observent, le croquent, le dessinent. Aussi, Mathieu Sapin, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît, auteur de BD, aussi à l'aise dans vos bulles que dans les hautes sphères du pouvoir. Sauf que vous voilà prêt à faire le grand saut. Vous allez passer bientôt là, derrière la caméra. C'est dans quelques jours, c'est ça ?
Oui, je vais on va commencer le tournage de mon premier long métrage. Ouais.
Long métrage qui est une adaptation de votre bande dessinée sur la campagne présidentielle, c'est ça ou
alors,
c'est pas tout à fait ça.
C'est inspiré d'eux. C'est un scénario que j'ai écrit avec Noé Debré, donc mon co-scénariste, et on a imaginé une campagne présidentielle qui se passe en France, mais qui est fictive. C'est-à-dire que c'est vraiment toute ressemblance avec des personnes.
C'est ça, voilà. Ce serait purement fortuit.
Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le point de vue d'un novice. Donc, on suit un personnage qui va être interprété par Finnegan Oldfield et qui est un tout jeune homme qui découvre ce milieu-là. Donc, vraiment, c'est vraiment la campagne. Donc, c'est avant l'Élysée. Et c'est parce que moi, j'avais suivi en 2012 la campagne de François Hollande. Et donc, ça m'a évidemment beaucoup servi. Mais je me suis inspiré aussi de cette dernière campagne. Parce que c'est des réservoirs à histoire. Quoi,
Comment est-ce que vous vous sentez à quelques jours ou quelques semaines du tournage? Parce que c'est un premier long, c'est pas rien.
Ouais.
Je vois vos yeux qui pétillent. En même temps, ils pétillent souvent, ces yeux-là. Donc, je n'arrive pas à savoir si...
Alors... Moi, je reviens de vacances là, donc je suis extrêmement détendu. j'étais coupé du monde pendant plusieurs semaines. Donc non, là, ça va, mais on peut en parler dans.
Jusqu'ici, tout va bien.
Voilà.
Vous avez toujours eu des envies de cinéma, Mathieu Sapin ? Est-ce que c'est venu ?
Non, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est pas comment dire, c'est venu. C'est venu un peu tardivement. Moi, j'ai passé de longues années en atelier avec Johan Sfar, avec Riyad Satouf et Christophe Blin. Donc, c'est mes copains d'atelier. Et tous les trois ont été impliqués dans des aventures cinématographiques. Donc, moi, je suis le mouvement. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas moi ?
Et en fait, vous avez fait votre première BD en immersion. C'était sur le tournage de.
Oui,
Johan
voilà.
Sfar.
Alors après Johan, c'était en 2010. Il a fait un film sur Gainsbourg. Il m'a proposé de suivre tout le tournage. Donc c'était comme un stage très poussé puisque il a dit, Mathieu, c'est mon copain. Il a le droit d'aller où il veut. Et carte blanche.
Et de nous apporter des cafés.
J'apportais pas de café, au contraire. ce qui était incroyable, ça n'arrive jamais dans le cinéma, c'est assez fermé, plus que la politique presque. Et là, je pouvais aller partout et voir tout. Et même après le tournage, tout ce qui suit, même la promo, j'ai tout suivi. Donc, c'était un stage d'observation très, très précieux. Et puis.
Ça a déclenché chez vous, en tout cas, ce goût pour la BD du réel, pour ce qu'on appelle la BD du réel. Je résume la suite parce que la suite
compliqué.
Est riche, mais il faut tenter de la résumer quand même. Vous avez ensuite raconté la vie d'un journal en vous infiltrant dans la rédaction de Libé, qui vous a demandé l'année suivante, en 2012, de suivre pour eux la campagne présidentielle. Le personnage de votre film, donc vous le disiez tout à l'heure, c'est un novice qui entre en politique, qui est fasciné par la politique. Qu'est-ce qui vous fascine ? Dans la politique.
Ah, en fait, le personnage de mon film, c'est un peu. Il y a un peu de moi. C'est-à-dire que moi, je m'en fichais complètement de la politique avant d'y mettre les pieds. Non, mais vraiment, sincèrement.
Vous en fichiez du cinéma, vous en fichiez de la politique, vous en
fichiez
de tout.
Oui, mais quand on a sous les yeux un spectacle, parce que c'est un spectacle, la politique, forcément, c'est fascinant. Et on voit. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de montrer là aussi l'aspect humain des gens qui sont derrière. J'aime pas trop les films où les hommes politiques sont présentés de manière très glacée, comme ça on dirait des robots. Moi, j'aime bien montrer les failles et les coutures et les côtés aussi un peu foireux souvent, parce que ils donnent l'impression que tout est parfaitement calculé, parfaitement coordonnées, et souvent on navigue beaucoup à vue, mais c'est normal.
Alors la politique a déroulé certains des plus beaux maîtres de pellicule au cinéma, la télévision aussi. L'une des meilleures séries françaises en l'occurrence, qui se déroule justement pendant une campagne présidentielle, c'est évidemment Baron Noir, vous la connaissez, Mathieu Sapin. Oui. Je ne résiste pas à l'envie d'en diffuser un extrait.
Logier et toi, vous vous entretuez. Vous divisez la gauche. Au final, il n'y aura qu'un gagnant, l'extrême droite.
Logier a parié sur la violence pour faire dégénérer la manif. C'est uniquement parce que je suis venu en bleu.
Oui, Logier a organisé la violence. Mais toi, t'as mis la rue contre le gouvernement. Notre gouvernement. Lui et toi, vous êtes les mêmes. Vous avez pas de limite. Faut que quelqu'un vous arrête.
Qui ça? Toi?
Mais moi, je suis pas comme vous. Moi, j'organise pas ma vie en fonction du calendrier des 5 prochaines élections.
Mais t'as aucune une ambition, c'est vrai.
Si, j'ai de l'ambition. Mais tu vois, moi, quand je monte à la tribune, j'ai de l'eczéma. J'ai le dos cassé. J'ai de l'ambition, c'est bien faire mon travail. Et bien faire mon travail en tant que première secrétaire, c'est unifier le parti, rassembler la gauche.
La voix envoûtante d'Anna Mouglalis qui en ajoute à l'énigme, au trouble de son personnage. Dans cette série, on est dans le noir, très noir. Avec vous, Mathieu Sapin, colorimétriquement parlant, on sera où?
Moi, il y a quand même beaucoup d'humour dans ma vision des choses, même si je parle de choses graves. Il y a toujours un côté un peu décalé, un peu amusé. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens essayent de faire une image très propre, et souvent il y a un truc qui est un peu foireux dans le cadre, parce que ça s'appelle la vie. Il y a des imprévus, il y a des choses. Donc moi, je suis plus, je suis plus vers la comédie quand même.
Et le candidat à l'élection présidentielle dans votre film, est-ce qu'il va ressembler un peu, beaucoup, pas du tout à celui que vous avez suivi dans la vraie vie, c'est-à-dire François Hollande?
Ah non. Je me suis inspiré d'autres personnages. Arnaud Montebourg, je le trouve
ah oui
incroyable.
Ouais, pourquoi?
Parce que justement, il a un côté un peu flamboyant, mais ça marche pas. donc, ça, je trouve ça intéressant. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai suivi aussi assez de près la dernière campagne, et moi, je voyais en Arnaud Montebourg quelqu'un qui était vraiment, voilà, qui avait vraiment envie, se disait là, c'est mon moment. Et je pense que ça a été très très dur.
Mais grâce à vous, il aura presque son moment de cinéma. Ouais. Qui est plus facile à suivre et à dessiner, Mathieu Sapin, un président ou candidat comme Hollande ou un monstre sacré comme Gérard Depardieu, autour de qui vous avez aussi produit une BD en immersion?
Gérard, il est quand même, c'est assez agréable à il est très agréable à dessiner, parce qu'il y a beaucoup de choses à dessiner.
Parce qu'il y a une grande surface corporelle ou
parce
qu'il y a
une grande surface corporelle et à l'intérieur aussi, il y a une grande densité. Ouais. François Hollande, c'est un peu là. C'est-à-dire qu'il est très secret, on l'a dit, enfin, c'est connu, mais c'est beaucoup plus difficile d'essayer de rentrer dedans.
De capter quelque chose.
Alors que Gérard, il donne énormément. Après, la difficulté, c'est de...
C'est qu'il donne tellement que...
Voilà, c'est d'aller, de voir ce qu'il y a derrière.
Ouais.
De ne pas s'arrêter à tout ce qui...
Justement, ce qu'il veut bien montrer à son côté showman, quoi, c'est ça?
Voilà.
On va vous suivre, Mathieu Sapin, dans les couloirs de l'Élysée. Si je vous ai bien lu, on va passer par la loge d'honneur, déposer une pièce d'identité, prendre un badge, traverser la cour. Alors, par le côté, pas tout droit, ça se fait pas. De là, on a le vestibule d'honneur, on a l'escalier Murat, petit couloir, bonjour au secrétaire, et hop, le salon doré, salon du président. Oui, celui-là aussi, on ira là où se sont assis tous ceux qui en ont sué pour la France.
je te raconterai n'importe quoi. Ce sera bien.
Classique, fait du bien, comme ça. Tombé pour la France, Étienne Dao. Merci Elsa Béranger pour cette jolie programmation musicale. Merci à vous de nous être fidèles tous les matins, ici ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou Instagram avec ce hashtag « Dans quel monde on vit ?». Par mail aussi, vous pouvez nous rejoindre. Une adresse à retenir, « Dans quel monde on vit ?» @radiofrance.com. On se glisse derrière les portes de l'Élysée. Ce matin, on ira plus loin que toutes les journées du patrimoine ne l'ont jamais fait. Oui, madame, parce que nous avons avec nous la taupe qu'il nous faut, Mathieu Sapin et son album Embedded à l'Élysée, le château. Cela dit, Mathieu Sapin, ça n'a pas été si facile que ça d'y entrer. Il vous a fallu, vous le raconter, une sacrée dose de patience et...
d'obstination.
Ouais. C'est ça.
Oui, parce que moi, je connaissais donc les gens de l'équipe qui travaillaient à l'Élysée parce que c'était eux qui travaillaient dans l'équipe de campagne en 2012. Donc, assez naturellement, je me suis dit, ça va être facile. Je vais leur demander, est-ce que je peux venir faire une bande dessinée sur l'Élysée?
Ouais.
Comment?
Kikou, c'est moi, j'arrive.
Voilà. Et en réalité, ils étaient un peu... ça s'était jamais fait, quoi. Donc, ils se disaient pas non, ils disaient pas oui.
Donc, pas de réponse.
Voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert en politique. Ça marche très bien. C'est on ne te dit pas non. Mais on ne te dit pas oui non plus. Et donc, tu es en stand-by. Et donc, il y a eu de longs mois. Et puis, j'ai fait ce que font beaucoup de journalistes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sur les conseils de journalistes, justement, que j'avais rencontrés pendant la campagne, j'ai contacté directement le patron, c'est-à-dire François Hollande.
On vous a dit, envoie-lui un texto.
Ouais.
Et c'est ce que vous avez fait.
Ben ouais.
Et la réponse est arrivée. Au bout de combien de temps, et elle vous disait quoi exactement?
Alors en fait, je lui ai envoyé un texto, il ne m'a pas répondu. Et je me suis dit ok. Et puis, je ne sais plus, au bout d'un moment, un mois après, je me suis dit bon, j'en ai rien à faire, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Donc je l'ai harcelé, non, j'ai envoyé un autre texto.
Et il m'a répondu. Mathieu Sapin tout le cœur sur les réseaux sociaux.
Il m'a répondu. Et là, il m'a répondu, là, dans les 10 minutes, il m'a dit sa réponse était venez me voir. Et du coup, c'est voilà. Et alors, c'est le problème
même
des textos.
Même pas bisous, quoi.
Non, c'est le problème des textos, c'est qu'on ne sait pas l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que ça veut dire venez me voir là maintenant,
ah oui.
Ou est-ce que ça veut dire passer quand vous passez dans la rue ou quoi? Donc, enfin bref.
Non, puis on peut avoir un peu l'impression d'être convoqué chez le proviseur avec un texto.
Oui, aussi.
Voilà. Un peu de ça. Alors, en l'occurrence. Vous vous retrouvez devant les portes de l'Élysée le 8 juillet 2013. Vous portez, écrivez-vous, je vous cite, des mocassins pourris achetés dans un supermarché et un costume en lycra bon marché. Mmh. Autant dire que vous n'en menez pas très large quand vous vous retrouvez devant ces lourdes portes.
Oui, mais alors après, moi j'ai un peu de mise en scène de ma part. Mais,
ah bon
mais non, cela dit, c'est vrai que c'était des mocassins achetés à la halle au marché, la halle aux vêtements. Je me suis dit que moi je voulais donc passer du temps. Mon idée c'était ok, faire une bande dessinée sur l'Élysée, c'est évidemment pour moi c'était très intéressant, mais à condition que j'y passe vraiment beaucoup de temps. Mm-hmm. J'y ai passé 2 ans en réalité.
Ah oui.
Ouais. Mais donc pour ça je me suis dit il faut que je sois habillé, c'est comme les Dupont. C'est-à-dire qu'il faut que je sois habillé comme quelqu'un qui va à l'Élysée, donc en costume cravate. Parce qu'on ne m'a pas demandé, on ne m'a pas dit viens en costume cravate, mais je me suis dit, il faut être raccord avec les gens qu'on croise là-bas. Et si bien que donc ça a marché, j'ai été reçu par le président, et qui m'a dit, voilà, l'Élysée quelque part appartient à tout le monde, donc si vous voulez faire une BD sur l'Élysée, pourquoi pas. Mais il a eu la même idée que moi, il m'a dit, mais pour que ce soit intéressant, il faut passer du temps. Donc on était d'accord tous les deux.
Ça tombait assez bien.
Ça tombait très bien. Mais j'y ai passé tellement de temps que les gens de l'équipe de communication ont fini par changer. Et donc au bout d'un moment...
C'est vous qui les avez accueillis.
Bah, au bout d'un moment, j'étais plus ancien que beaucoup de gens qui travaillaient. Il y a même des gens qui me croisaient et qui me disaient « Mais dans quel service tu travailles exactement ?»
Alors, vous allez nous entraîner à votre suite, Mathieu Sapin, dans l'Élysée, avec d'abord cette photo que vous avez choisi de partager ce matin. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît, et nous dire pourquoi celle-ci ?
Eh bien, je l'ai choisie parce que elle décrit donc le deuxième tour de la dernière élection présidentielle.
Et on est où là sur cette
On est à l'Élysée, on est dans la salle des fêtes.
Ouais.
Et on est à l'instant T où le visage d'Emmanuel Macron apparaît sur l'écran. Et moi, j'avais envie de revenir à l'Élysée dans ces moments-là pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est une fin de règne. Comment ça se passe? Et donc sur la photo, on voit donc François Hollande qui applaudit. Son expression est pas hyper jouasse, on va dire elle est solennelle.
Oui, d'accord.
Mais non, on sent une certaine mollesse dans les applaudissements quand même.
D'accord, un enthousiasme qui n'est pas démesuré.
Il est entouré de Jean-Marc Ayrault, donc son ancien actuel ministre des Affaires étrangères, mais ancien Premier ministre, de Bernard Cazeneuve. Et on sent vraiment que c'est la fin d'un monde. Et tout le monde a les yeux rivés sur le téléviseur qui est au tout premier plan, en amorce. Et moi, je suis là aussi. C'est pour ça que parce que je suis un peu narcissique. Donc, c'est une photo où on me voit. Et moi, par contre, je suis tout à droite et je regarde non pas le téléviseur, mais justement le président. C'est ça qui m'intéressait, c'était de voir ce que décrit cette photo.
Et c'est une photo de Marc Chomeil qu'on va recevoir.
Et c'est une photo de Marc Chomeil.
Bah oui, parce qu'il est venu... Bien sûr, une photographie avec une moto.
Marc Chomeil, c'est connu. On s'est beaucoup côtoyé pendant ces années à l'Élysée.
Et qui nous rejoindra tout à l'heure dans ce studio. En l'occurrence, vous êtes là sur la photo. On vous voit évidemment dans votre...
Avec mon costume cravate, mais par contre, il est plus chic. Hein,
mieux,
mon costume.
Parce que vous avez fini par vous adapter quand même. On vous suit donc un petit peu partout, on vous voit dans les cases de cette bande dessinée et on voit avec vos yeux, et vos yeux ce qu'ils voient aussi, c'est que il y a une forme de lustre, je le disais en début d'émission, et puis en même temps vous dites mais c'est aussi un peu crasse-pouille.
Oui, il y a les salles d'apparat, donc là celle-ci par exemple, c'est la salle des fêtes, mais derrière il y a aussi des bureaux un peu nazes, c'est un vieux palais, un vieux palais, il n'a pas été modernisé à part peut-être la salle de presse ou deux, trois endroits, mais sinon il y a vraiment des moments, où des endroits où, bon, il n'y a pas la pluie qui tombe quand même par le plancher,
mais
ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout un... C'est pas high-tech du tout.
Mais à la limite, c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas énormément d'argent dépensé pour refaire les moulures, quoi.
Quand même, parce que même les cuisines qui ont été refaites, il y a sous Mitterrand, je crois, ça a coûté un bras. Hein.
Oui, sauf qu'elles étaient même plus aux normes, là, au moment où vous y allez, c'est ça. Alors, on va parler des cuisines tout à l'heure, mais pour continuer notre immersion, on en a eu un petit peu pour les yeux, on va en prendre un petit peu pour l'oreille, pour Louis. Vous nous avez parlé, en préparant cette émission, d'un parquet qui craque, d'un silence feutré. Est-ce qu'on sent parfois comme un éléphant dans un magasin de porcelaine? Est-ce qu'on a peur de déranger?
Oh non, non, ce qu'il y a, ce qui est un peu étrange, c'est que, par exemple, j'ai en mémoire, j'étais présent quand il y a eu le remaniement ministériel, donc celui qui a nommé Emmanuel Macron au ministère de Bercy. Et donc là, c'est beaucoup d'attentes pendant que donc François Hollande et Manuel Valls sont en train de discuter dans un des salons d'angle. Et donc, il y a toute la presse qui est à l'extérieur. Ils n'ont pas le droit d'entrer, même dans l'enceinte de l'Élysée, tant que l'annonce n'est pas faite. Et là, ça a pris beaucoup de temps. Et je me rappelle de ces moments comme extrêmement silencieux. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est le château de la Belle au Bois dormant. Quoi.
Et vous entendez le tic-tac des horloges. Il y a cette sensation palpable de temps qui s'écoule. Mais le temps, le facteur temps, c'est un facteur qui vous met du bon côté. Écoutez. It's on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Time is on my side, les Rolling Stones, c'est la bande son pour notre immersion. Mathieu Sapin, c'est ce titre-là que vous avez choisi, parce que c'est ça que ça veut dire, c'est tout est une question de temps et de temps long à l'Élysée.
Oui, enfin en tout cas moi c'est mon approche des choses, c'est qu'il faut pouvoir... Ça, c'est le luxe que j'ai en faisant de la bande dessinée, c'est que ça coûte rien, la BD. Je ne suis pas limité par des histoires de production. Et donc effectivement, c'est vraiment en passant du temps qu'on s'imprègne des choses et qu'on voit des choses. Après, il faut être réveillé quand même. C'est-à-dire que le moment où il se passe un truc, il faut pouvoir être réactif.
Mais, ouais. Alors, on parle du son, on parle des yeux, on parle aussi, bien sûr, l'Élysée nous parle aussi aux papilles et aux narines. Vous parlez beaucoup, vous êtes jusque dans les cuisines de l'Élysée en préparant l'émission, vous nous avez parlé des odeurs de cuisine et notamment, je vous cite, du chocolat des desserts de Guillaume Gomez.
Oui.
C'est un élément important.
C'est une arme de destruction, pas de destruction, c'est une arme de construction massive la cuisine à l'Élysée parce qu'elle est, il est très réputé pour ça, ce palais, je parle par rapport aux chefs d'État étrangers, je pense que le président français peut... arranger beaucoup de choses en conviant des homologues et par le biais de la cuisine. Ouais,
vous avez rencontré le chef Bernard Bossion.
Ah oui, l'ancien chef Bernard Bossion qui était là depuis, il m'avait dit depuis Pompidou, je crois.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Il est comment?
Moi, je connais ensuite celui qui a suivi Guillaume, qui est plus jeune et on parle plus facilement. Alors que Monsieur Ossion, c'était quelqu'un d'assez, en tout cas, moi, je l'ai vu une fois, assez impressionnant, puis assez secret. C'est-à-dire que je lui ai demandé la recette préférée de François Hollande. Il n'a pas voulu me le dire.
Pourquoi?
Parce qu'il m'a dit, Jacques Chirac, il a eu le malheur d'un jour de dire qu'il adorait la tête de veau sauce gribiche. Et du coup, on lui en servait partout. À chaque fois qu'il faisait un déplacement, les gens, pour lui faire plaisir, tête de veau sauce gribiche, il n'en pouvait plus.
Alors, ce qu'il vous raconte quand même, c'est qu'il y a une sorte de téléphone bleu.
Ah oui. Ouais.
D'une chancellerie ou d'un pays présidentiel.
C'est que tous les chefs de cuisine des gouvernements se connaissent et donc se refilent des tuyaux. C'est on va recevoir un tel, tel chef d'État ne supporte pas la viande, ne supporte pas je sais pas quoi. Donc ils sont tous connectés apparemment.
Alors on poursuit cette visite avec vous. Vous passez donc dans les moindres couloirs et vous dites vous vous sentez épié par moment.
C'est venu d'une discussion avec le chef, responsable de l'image de l'Élysée, donc Stéphane Ruet, que je connais bien, qui est photographe de formation, et qui m'expliquait que dans le château, on a l'impression que c'est endormi, que tout est calme, mais en fait, il me dit tout le monde te voit, Oui. Donc du coup, effectivement, il y a des moments où je suis allé très loin, je suis allé dans les sous-sols, dans des endroits que personne ne connaît, mais on se demande toujours si est-ce
et
qu'il y a quelqu'un.
Et vous avez vu Georges Pompidou qui en fait n'est pas mort et qui est encore là. Il y a quand même une question de sécurité très importante qui.
Pour rentrer.
Ouais, pour rentrer.
Ouais.
Et après, évidemment, pour entourer le président. Alors, évidemment, vous racontez plusieurs services de sécurité. Il y a les sièges et les Kevlar. Donc, les surnoms sont assez savoureux. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit?
Le siège, c'est celui qui est vraiment collé au président quand il fait un déplacement. Quand il sort de l'enceinte de l'Élysée, il a donc tout un bataillon de gardes du corps, mais il y en a deux qui sont donc le siège, qui sont vraiment à quelques mètres de lui. Et s'il se passe quoi que ce soit, c'est eux qui se mettent en écran.
Et le Kevlar?
Et le Kevlar, c'est un des hommes du dispositif qui tient une fausse valise. Et quand on appuie sur un bouton, elle se déplie, elle fait comme un bouclier en Kevlar.
Et alors vous avez eu droit à une démo.
Oui.
Dans ces cas-là, on se sent comme un gamin de 4 ans.
J'étais embarrassé parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, là, le garde du corps en question qui me montrait ça, mais je savais pas s'il était conscient que j'allais pouvoir raconter tout ça dans ma BD. Donc il me montrait les grenades, il me montrait les fusils mitrailleurs, les pistolets, tous les dispositifs qu'ils avaient. Et forcément, c'était très tentant de raconter ça dans ma BD.
Évidemment, ouais. Et vous l'avez fait avec quel régal. On va l'approcher d'un peu plus près encore, le pouvoir en gros plan, celui qui vient de l'incarner pendant 5 ans, et puis son successeur François Hollande, Emmanuel Macron, dans l'objectif, dans le viseur d'un photographe que vous connaissez bien, Mathieu Sapin, Marc Chomeil. Il est là avec nous, il va nous rejoindre à cette table, il va nous raconter avec vous les coulisses de l'Élysée. Maybe I listen more than you think, and I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We
talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also, no other faith is light enough for this place. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God.
De Cincinnati, The National, avec ce titre, The System, The Only Dreams in Total Darkness, dernier single de leur 7e album, Sleep Well Beast, album que vous découvrirez dans sa totalité le 8 septembre, ce qui me laisse quelques secondes au moins pour vous présenter l'équipe qui officie ce matin à la technique, Florence Beauvallet, à la réalisation Romain Imbertèche, Valentin Pérez et Johanna Hébert, attachés de production, avec Rose Bernard sur les réseaux sociaux et Elisa Bondarenko, absolument un peu partout.
Dans quel monde on vit ? Julia Voice sur France Inter.
N'importe quoi, c'est pas du tout Florence Beauvallet, sauf si Florent a fait quelque chose qui m'a échappé au courant de la nuit ou des jours précédents. C'était donc Florent Beauvallet, pardon, à la technique. Voilà. Le cercle s'élargit, donc, puisque nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le photographe Marc Chemey. Bonjour.
Bonjour.
Je vous appelle pas Marceline, hein, donc on reste sur Marc.
Sur Marc.
Donc c'est vous, Mathieu Sapin, qui nous avez suggéré d'inviter Marc Chemey. Vous êtes rencontrés tous les deux à l'Élysée, c'est ça ?
Oui. Avant même, pendant la campagne de 2012.
Oui, pendant la campagne de 2012.
Alors, l'outil n'est pas le même, stylo, appareil photo, les personnalités en apparence sont assez différentes, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans votre façon de travailler qui pourrait vous rapprocher tous les deux ?
Moi, je pense qu'on aime bien l'immersion, c'est-à-dire passer du temps pour arriver à vraiment gratter des choses, gratter photo après photo. Et je pense que Mathieu, c'est plutôt dessin après dessin ou bulle après bulle, et d'arriver à rassembler tout ça pour faire un travail un peu de fond.
Mathieu Sapin, c'est ça qui vous plaît dans le travail de Marc Chemey, c'est la patience, c'est
l'immersion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment passer du temps à comprendre.
Et pas se laisser emporter par le flot de l'actualité.
Et aussi, Marc, il a ce truc et que il bouge pas. C'est-à-dire qu'il reste, parce que c'est difficile aussi de pas basculer dans une forme d'empathie pour le sujet qu'on est en train de traiter. Et alors, je sais pas, je suis pas dans ta tête, je sais pas comment ça se passe, mais on sent que tu gardes une neutralité et une distance qui te permet de rester toujours d'avoir une acuité, quoi.
Mais je crois que je garde une distance journalistique et je m'y tiens. Mais je communique plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance effectivement à ne jamais intervenir. C'est-à-dire que les gens, ils avaient quelqu'un qui ne leur parlait pas. Maintenant, je parle de plus en plus. Enfin, je communique un peu plus avec les gens que je photographie. Et
pourquoi vous avez senti que c'était nécessaire ?
Parce que ça permet aussi de comprendre les photos qu'on fait après. C'est-à-dire que discuter aussi avec les gens, c'est rentrer un peu plus dans leur personnage et après comprendre le pourquoi de la photo et comment on l'a fait.
Mais le risque, du coup, c'est celui de l'empathie qui vous ferait perdre une objectivité journalistique ?
Non, il n'y a pas d'empathie, c'est de l'information.
À force, poser à force des questions, oui, discuter mais à force avec de s'intéresser gens. À quelqu'un, je veux dire, on n'est pas des machines, à force de leur poser des questions, de s'intéresser à eux, on finit par rencontrer un être humain, et donc il peut y avoir de l'empathie, c'est pas
mais
grave.
Moi, je suis parti, j'ai commencé les photos de François Hollande en 2011, enfin j'en avais fait avant sur des reportages, mais de manière plus précise sur la campagne présidentielle de 2012, j'ai commencé en janvier 2011, et j'ai discuté avec François Hollande dans une voiture parce qu'on devait se rendre à un endroit. Il m'a dit montez avec moi, donc on a longuement parlé. Et après, je lui ai demandé si je pouvais suivre sa campagne. Et à cette époque-là, effectivement, je n'avais pas choisi de candidat que j'allais suivre pour la présidentielle.
Et je précise que vous étiez photojournaliste indépendant. Vous travaillez pour un certain nombre de titres de la presse.
Et c'est vrai que j'en avais un peu marre des candidats caractériels ou des services de presse dominants. On ne pouvait pas accéder aux candidats ou 15 secondes pour faire un cliché qui était un peu déterminé à l'avance et mis en scène. Et je me suis dit, tiens, je vais suivre François Hollande. Ça me paraît c'est intéressant. Il me laisse ouvert les portes, en tout cas.
Et sans commande, quoi. C'est-à-dire qu'à vos frais, au départ, vous avez dit, voilà, c'est sur lui que je mise.
Et mes confrères étaient un peu surpris. Je leur disais, ils demandaient qui tu suis. Je dis, je suis François Hollande. Ah ouais, tu crois vraiment ? Et effectivement, j'ai suivi. Après, après, ça s'est gâté avec l'arrivée du service de presse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été candidat officiel, là, tout a été repris en main par le service de presse.
Évidemment.
Et c'était plus difficile d'accès.
Plus compliqué. Vous l'avez suivi, vous nous le disiez dans ses déplacements, qu'il soit candidat ou président. Vous aussi, vous avez tenté de répondre à la grande question que tout le monde s'est posée. Mais qui est-il et que veut-il vraiment ? Il y a eu par exemple ce film d'Yves Geland, Un temps de président, où on le suit là encore de très très près, François Hollande, jusqu'aux préparatifs de ses discours par exemple.
Oui, attends, j'ai pas encore fini.
Tu mets à son. Une élégance subtile. Et un mémorialiste, tu enlèves éditorialiste corrosif,
ouais.
Tu enlèves joyeux.
Ouais. Le président m'a demandé de revoir ce discours.
Si tu veux que je te...
Non, parce que moi, je n'arrive pas à lire.
Tu n'arrives pas à lire le président.
Vous arrivez
Mais
à
nous, on a
lire.
Fait une formation en hollandais.
Vous avez fait une formation en hollandais, Mathieu Sapin. Est-ce que vous parlez le hollandais maintenant ?
Oui, au bout d'un moment, il y a des choses qui, des automatismes, il y a des, comment dire, des manières de s'exprimer qui sont vraiment propres à lui.
Comme vous avez des exemples ?
Oula.
Je vous fais travailler.
j'ai pas révisé là. Non, mais c'est aussi des postures ou des.
Vous le décrivez assez rapidement dans le château, dans votre BD. Dès le départ, il y a un certain nombre de traits de caractère qui reviennent. Alors d'abord, c'est une machine de guerre increvable. Ça, c'est ce qu'on vous dit de lui. On vous dit aussi qu'il est très à l'écoute. Et puis qu'il est un petit peu pervers dans sa façon de manager ses équipes, puisque sa technique, c'est de ne jamais dire à personne ce qu'il pense de son travail.
Ouais.
De façon à instaurer une forme de compétition.
Oui, il y a un truc comme ça, effectivement, qu'on m'a dit et que j'ai pu remarquer, et puis qui crée une forme d'inconfort pour les gens qui. Mais je pense que c'est une technique qui a fait ses preuves. Mais après, on en a un tout petit peu parlé là, avec Marc, mais il est aussi très sympathique, François Hollande. Donc ça, c'est redoutable parce que, du coup, c'est difficile quand on le côtoie d'être tout simplement dur, quoi. C'est-à-dire comme il est très sympa, on a tendance à se laisser gagner par un sentiment de sympathie, quoi.
J'imagine qu'il y a d'un côté ce sentiment de sympathie, puis de l'autre, il y a une meute qui hurle pendant 5 ans. C'est une cote de popularité qui s'effondre. Comment c'est des journalistes extrêmement critiques. Comment est-ce qu'on résiste à la sympathie que peut susciter François Hollande et puis de l'autre côté au cri de la meute, Marc Chamaille.
Moi, pendant les 5 ans, en fait, j'ai suivi là en commande. J'étais pas en indépendant. Souvent, j'étais en commande pour des journaux parce que pour pouvoir accéder, être en pool, il faut avoir une accréditation d'un journal. Donc, j'ai couvert un peu pour Libération de manière assez régulière, mais je voyais François Hollande de manière très distante. Et puis, par contre, les 5 derniers mois, là, j'ai fait un travail personnel, parfois avec quelques commandes. Il y a eu une commande de Libé, mais sinon, c'était un travail personnel et je l'ai suivi pendant les 5 mois. La distance, elle se fait en photo, je sais pas, de manière un peu automatique. Puis il y a un métier aussi qui fait qu'on gagne, enfin, qu'on garde une certaine distance. Et je pense que la photo, c'est la composition de l'image, c'est des lignes, c'est des valeurs de couleur qui font qu'il y a quelque chose de... On fait avant tout la photo.
Et on arrive à garder un regard neutre, on arrive à rester sourd à tout ce qu'on entend sur le président.
On n'est pas sourd à tout ce qu'on entend, heureusement, ça permet de compléter pour les photos. Enfin, je veux dire, c'est pas... On est ouvert sur tout ce qui se passe. On est à l'écoute, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute, anticiper, et puis essayer de vraiment disparaître dans le décor.
Votre regard à vous, sur lui, maintenant, avec le recul, puis en plus il y a prescription, votre François Hollande, c'est qui ? Qu'est-ce que vous avez pu en percevoir ?
Ce que dit Mathieu, c'est que c'est quelqu'un de très sympathique. Je pense très compétent, malgré tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu énormément de choses de réaliser pendant le quinquennat. Les résultats n'ont pas forcément été là à la sortie. Il y a eu aussi des échecs. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un de... C'est intéressant d'avoir...
On le dit beaucoup, énigmatique. Est-ce que l'énigme Hollande, vous avez fini par la résoudre ou est-ce qu'à la fin, il vous résistait toujours ?
Non, je pense qu'elle ne se résout pas. Et puis, il veut garder aussi un jardin secret, des choses privées, que je comprends. Enfin, garder une certaine vie privée, sinon,
oui, on peut est happé.
Je pense que c'est une bonne chose.
Aujourd'hui,
la transparence totale pour un président de la République, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Et je pense qu'il garde ses limites, il garde sa distance. Voilà.
Aujourd'hui, vous photographiez Emmanuel Macron. Face à un objectif, Emmanuel Macron, est-ce que c'est l'anti-Hollande ou...
Je l'ai assez peu photographié là, j'avais fait un peu au ministère de l'économie, j'avais suivi au ministère de l'économie. Je pense que c'est là maintenant, il y a une espèce de blocage sur la communication avec un espèce de président de la République qui estime que François Hollande a peut-être trop communiqué, donc on est dans un retrait, mais je pense que...
Puis attention, vous pouvez vous faire poursuivre pour atteinte à la vie privée, et harcèlement.
Je pense qu'au fur et à mesure des mois, et je pense que la cote de popularité est un peu en descente pour le président Macron, je pense que cette communication avec les journalistes, elle va reprendre pour essayer de vendre ses réalisations.
Le texte que vous avez choisi ce matin pour nous, Mathieu Sapin, concerne Emmanuel Macron. Il est tiré du livre de François-Xavier Bourmeau, Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire. Et le passage que vous avez sélectionné revient sur un des temps les plus forts et les plus lunaires de cette campagne, le débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce texte est lu par Laurence Perron.
Dès le début, Marine Le Pen attaque, saute à la gorge d'Emmanuel Macron et égrène cette série de mots: mondialisation sauvage, ubérisation, brutalité sociale, saccage économique, dépeçage de la France, communautarisme, tout cela piloté par François Hollande. À aucun moment, la discussion ne s'engage sur le fond, sur aucun sujet, aucun thème, aucune proposition. Souvent, Emmanuel Macron paraît interloqué, comme interdit, ne sachant par quel bout s'y prendre. Marine Le Pen a disposé devant elle quantité de fiches et dossiers. Agressive, donnant le sentiment de vouloir asphyxier Emmanuel Macron, elle multiplie les flèches. Une stratégie de guerre totale, consistant à bombarder son adversaire sans relâche. Tant bien que mal, il s'efforce d'expliquer son projet, de défendre ses propositions, de justifier ses choix. « Ne mentez pas, une fois encore », s'énerve-t-il à de nombreuses reprises. « C'est n'importe quoi. Vous dites de grosses bêtises, de gros mensonges. Vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse. Ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin », lâche-t-il, cachant mal son exaspération. Dans une dernière attaque, il conclut « Madame Le Pen, je ne suis pas, pour ma part, dans un spectacle télévisé. Restez à la télévision, moi je veux présider le pays ». Au bout de 2h30, fin du débat, il sort sonné du plateau, incapable de porter le moindre jugement sur sa performance. Lorsqu'il revient dans sa loge, les proches qui l'ont accompagné l'applaudissent. Il y a là François Bayrou, Richard Ferrand, Gérard Collomb, entre autres. Il le rassure, Marine Le Pen s'est ridiculisée. En une émission, elle a détruit 5 ans de travail de dédiabolisation du Front National et a montré le visage de l'extrême droite tel qu'en elle-même. Insinuation, mensonge, agressivité, impréparation, le masque est tombé.
Mathieu Sapin, pourquoi ce texte-là ? Pourquoi ce moment-là de la campagne ?
Parce que moi je trouve assez incroyable, aujourd'hui on est dans un récit en direct de l'histoire, Et donc là, moi, je suis à la fois observateur, en même temps, bah, comme tout le monde, consommateur de récits. Et donc là, François Xavier, que je connais bien, donc raconte un moment, donc tout le monde a pu voir, enfin la plupart des Français l'ont vu, c'est le débat. Mais moi, j'ai eu la chance d'être dans les loges d'Emmanuel Macron, de l'équipe d'Emmanuel Macron.
Et depuis les loges, on le voit comment, le débat?
Et c'était complètement dingue, complètement dingue. Alors en fait, déjà juste avant, les 15 minutes avant, dans les loges, Emmanuel Macron arrive et je vois quelqu'un, je le connaissais pas, hein, je l'avais jamais rencontré de ma vie, bien qu'ayant, enfin à l'Élysée, je l'avais vu de très très loin. Mais là, donc il arrive extrêmement détendu, faisant des blagues aux uns aux autres. On aurait dit qu'il allait, je sais pas, faire une soirée...
Une partie de squash.
Une soirée tarot, quoi. Vraiment, hein. Et donc déjà ça, c'était assez surprenant. Et donc, il arrive sur le plateau, on lui montre les angles des caméras, etc. Il continue à faire des blagues, à dire attention à son garde du corps, puisqu'il qu'il manque de se péter la figure dans un câble, etc. En lui disant attention, c'est moi qui... Heureusement, je suis là pour veiller sur vous, etc. Donc, ensuite, on est écarté du plateau, le débat commence. Donc là, bon, la plupart des gens l'ont vu, mais effectivement, on était tous assez estomaqués, quoi. C'était un vrai spectacle. Et bon... Tout le monde a noté que Marine Le Pen n'a pas brillé spécialement.
Et oh, c'est dur.
Dans les loges, c'était, y avait une espèce d'ambiance de match de foot, en fait, de supporters. Quoi.
Donc, et rapidement, à la sortie du débat.
Et la sortie, alors là, donc c'est ce que raconte François Xavier. Mais donc moi, j'étais là et c'était marrant parce que tout le monde, comment dire, le congratulait. Et il y avait une forme aussi de courtisanerie, quoi. C'est-à-dire que tout le monde était là en se disant ça y est, là
ça,
il faut se placer.
Ça très
donc
vite,
il y avait Bayrou, etc. Et donc ça, c'était. Ouais.
Marc Chemey, vous l'avez suivi d'où ce débat?
Moi j'étais avec François Hollande dans son bureau avec le président. Normal. Et donc.
L'ambiance?
L'ambiance était assez. Il était effectivement pro-Macron, bien entendu, comme tous les gens qui étaient à côté de lui à ce moment-là, et plutôt, évidemment anti-Marine Le Pen. Et ça a commencé où, enfin, le tout début du débat, Marine Le Pen a parlé de François Hollande en disant que Macron était un bébé Hollande, etc., etc. Plusieurs choses sur François Hollande. Et dit mais pourquoi elle m'agresse? Moi, je suis là. Pourquoi elle m'agresse comme ça? Enfin, il était assez drôle, et, comme il l'est souvent. Et tout le débat était assez avec des commentaires assez ironiques, assez drôles.
C'est un très bon commentateur. C'est très drôle.
Oui, c'est un très bon commentateur.
Merci beaucoup, Marc Chemey, d'être venu nous voir. On va se dire au revoir en musique parce que c'est plus joli. On mettra bien sûr un lien vers vos photos sur franceinter.fr à la page de Dans quel monde on vit.
Ça se perd, ça se délite. On a changé de satellite. Le froid derrière la fenêtre me pénètre. Et ton visage brumeux qui part au mieux.
Laisse-moi le temps, le long de l'action de l'amour.
c'est pop, c'est frais, ça sent l'été, c'est Burning Peacocks. Ondulation.
Dans quel monde on vit ? L'été sur France Inter.
Alors, vous le savez, c'est le moment où on écoute avec délice le répondeur de l'émission, là où vous nous déposez tous les jours les souvenirs de vos étés particuliers. Au fil des semaines, vous avez pris vos aises et c'est tant mieux parce que, bah parce que voilà le résultat.
Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 30 ans. J'habite à Lobalagnaz dans les Hautes-Pyrénées. Je vais vous raconter mon été 2007. Étant étudiant à cette époque, je passe mes étés à travailler. En 2007, je vais travailler aux autoroutes. Le père d'un copain y travaille et m'a obtenu ce job. Le boulot consiste à nettoyer les aires d'autoroute sur un secteur donné, nettoyage des espaces verts, des toilettes. Le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, on travaille en binôme. Les binômes tournent et je me retrouve plusieurs fois avec Julie, une fille mignonne, brune, yeux marrons et bleu de travail des autoroutes. Super quoi, trop belle. Il se trouve que je suis en couple à ce moment-là, mais à force de nettoyer les toilettes ensemble et à force de faire quelques fêtes estivales et des danses endiablées, je tombe amoureux d'elle et elle de moi. Premier baiser le 9 août 2007. Le jour de la Saint-Amour, à coïncidence. Ça fait 10 ans maintenant que nous sommes ensemble et nous avons 2 enfants. Je voulais profiter de ce moment pour lui demander quelque chose et je me doute qu'elle nous écoute. Julie, veux-tu m'épouser ?
Mais merci Thibaut pour ce si joli cadeau que vous nous faites. Julie, de grâce, vous nous racontez la suite sur notre Twitter ou sur notre Instagram, hashtag dans quel monde on vit. Si vous aussi vous voulez passer vos messages personnels, allez-y, bien entendu, 01 56 40 55 35. Et là j'ai une pensée émue pour Rose Bernard qui s'occupe du répondeur ici et qui risque d'avoir à gérer un flot de grand n'importe quoi. Avant de trouver une pépite comme celle-ci, Mathieu Sapin, vous connaissez l'émission par cœur hein, parce que vous l'avez écoutée tous les jours.
J'étais à l'étranger et j'avais
mais
pas,
vous l'avez
pas internet. Non,
ah,
non
pas
c'était,
de réseau,
c'était exprès,
rien.
Voilà, j'étais dans une bulle.
Vous étiez dans une bulle, le seul endroit au monde où vous ne pouviez pas podcaster l'émission. Quel dommage, alors je vous le dis.
Mais je vais me rattraper.
Mais bien entendu, j'y compte bien. Néanmoins, vous savez que les invités ici ne viennent pas les mains vides et vous nous avez apporté vous aussi votre objet fétiche, votre souvenir d'été et de toute l'année, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Je l'ai dans les mains,
oui.
Je vous le repasse, dites-nous.
Eh ben c'est, non, c'est un carnet de dessin, un petit carnet. Et que j'ai appelé carnet portugais parce que je vais souvent au Portugal, j'ai la chance d'avoir une partie de ma famille là-bas et j'adore être là-bas. Voilà, c'est des dessins que je fais que quand je suis là-bas.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce carnet ? Est-ce que vous avez vos maniaqueries ?
Oui, je suis un geek
d'accord.
du carnet.
D'accord, alors il faut qu'il soit comment ?
Bah d'abord, c'est un carnet, effectivement, portugais, de fabrication portugaise.
Avec un marque-page, pardon, je suis obligée de le dire. Ah, oui. Le marque-page est une feuille de papier toilette, et ça, c'est Mathieu Sapin.
Voilà. Et puis, c'est des croquis, c'est des souvenirs. Il est petit, c'est un format, comment on appelle ça ? C'est
à tout petit,
ouais.
On va dire à tout
à 6.
Petit.
C'est pas à 5, c'est à 6.
Alors, ne me regardez pas, ne me demandez pas, j'en ai pas la moindre idée.
C'est un quart de A4.
D'accord. Donc, est-ce qu'il faut qu'il ait toujours cette taille-là ? Il faut que...
Oui, pour pouvoir le trimballer partout. Ouais.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres critères ?
Là, le critère, c'est que je mélange toutes les époques. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que je l'ai. Et puis, quand on tourne les pages, on peut être aussi bien cet été qu'il y a... L'année dernière ou il y a 2 ans.
Vous dessinez absolument tout le temps. Je viens de vous voir dessiner là pendant ouais. l'émission et en même temps vous étiez parfaitement
concentré. Ça tombe bien, je suis dessinateur.
Hein mais non, mais c'est sans arrêt, c'est quoi ? C'est que vous avez envie de croquer l'instant ou c'est que ça vous permet de déconnecter un peu ?
C'est un truc un peu compulsif. C'est-à-dire que en fait quand on dessine, on pense pas à autre chose. En fait, je peux faire 2 choses en même temps. Je peux dessiner et vous répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est comme un doudou de dessiner. Voilà.
Alors ça, psychanalytiquement, pardon, mais c'est extrêmement intéressant. Vous allez être obligé de venir nous re-raconter cette histoire de doudou carnet, Mathieu Sapin. Mathieu Sapin, donc vous abritez, je le disais en début d'émission, à tourner votre premier film. On vous dit un gros M. Hein, pour le tournage, voilà. Je redonne le titre de vos derniers albums, Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée et Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. Les deux sont chez Dargaud. Un grand merci d'être venu nous voir.
Julie.
Mathieu, c'était toujours, comme toujours, extrêmement agréable. On embrasse Alexandre Comte aussi, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui pour son pêle-mêle hebdomadaire. Mais tous les objets de nos invités, dont le carnet de croquis de Mathieu Sapin, vous les retrouverez évidemment sur mon compte Instagram. L'émission, c'est sur franceinter.fr que vous pouvez la réentendre en intégralité, voire la podcaster. Si d'ici lundi, on vous manquait, bah oui, c'est fini pour cette semaine. Tiens, mais restez à l'écoute de France Inter et surtout dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Ciné qui chante, Laurent Delmas et la playlist d'Emmanuel DeVos.